donc Charlie, mensuel, donc né en 69. Peut-être avant de parler de la revue elle-même, c'est peut-être intéressant de parler d'éditeur, donc qui s'appelle les Éditions du Square, donc qui est connu d'abord pour avoir fondé en 1960 cette fameuse revue qui est Harakiri. Donc on trouvait la base, Professeur Choron, Cavana, mais on va retrouver aussi par la suite des gens comme Volinsky, GB notamment, qu'on retrouvera aussi dans Charlie mensuel. Donc Harakiri n'est pas à proprement parler une revue de bande dessinée, même si elle l'apparaît déjà, mais qui est une revue... Bon, qui est très frondeuse, évidemment, hein, qui témoigne d'un mauvais goût délibéré, d'une volonté, évidemment, de saper toutes les formes de bienséance, de foutre en l'air toutes les bonnes vieilles valeurs traditionnelles. Donc on est bien dans l'esprit de ces années 60. Et puis, à Harakiri va s'ajouter un petit frère qui sera Harakiri Hebdo, qui apparaît en 69, qui deviendra plus tard Charlie Hebdo, qui a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec le Charlie Hebdo actuel. Et puis toujours en 69, apparition de Charlie mensuel, sous-titré d'ailleurs revue pleine d'humour et de bande dessinée, et qui s'inspire, et qui fait d'ailleurs plus que s'inspirer, de Linus, donc cette revue italienne apparue quelques années plus tôt, puisque la maquette est exactement la même, hein, le titre change. Charlie, d'ailleurs, vient de Charlie Brown, donc le personnage des Peanuts de Schultz, là où Linus était lui aussi un autre personnage de la même série. Disons que la politique éditoriale, à bien des égards, est la même, puisqu'on retrouve ce mélange de choses très anciennes et de choses très très contemporaines. Hein, on va retrouver là-dedans toute une série de bandes dessinées anciennes comme Popeye de Cigar, Crazy Cat de Herriman, Lil Abner d'Al Cap, Chester Gould avec Dick Tracy, etc. Et puis, évidemment, la série Peanuts, dont Charlie Brown est évidemment le personnage fétiche qui donne son titre à la revue. Et puis, on retrouve aussi véritablement l'avant-garde, hein, donc Crépax, qui était déjà une des grandes découvertes de Linus. On va retrouver une série d'auteurs français, hein, je l'ai cité déjà tantôt, comme GB, Volinsky, on retrouve aussi Pichard, Rezer, mais aussi Roland Topor, par exemple, et puis des choses qui viennent d'autres pays aussi, puisque, à l'image de Linus, c'est aussi une vitrine de la création la plus radicale d'où qu'elle vienne, puisqu'on va retrouver pas mal d'auteurs italiens. Je citais Crépax, mais on va y trouver aussi Buzzelli, par exemple, qui va véritablement faire ses grands débuts, francophones en tout cas, dans Charlie, alors que ses premières créations étaient passées complètement inaperçues en Italie. C'est vraiment la France qui va le découvrir avec la révolte des ratés. Hein. Donc Buzzelli, qui est cet auteur aujourd'hui complètement oublié, faut bien le dire. Il y a eu peu de rééditions de son œuvre, qui a un dessin d'apparence assez classique, mais qui a un peu une sorte de Goya, ou de Delacroix, ou de Fuseli, qui a eu une période comme ça, des années 70, très très créative, complètement égotique. Enfin, il y a des espèces de personnages qui sont son autoportrait, des récits assez déconstruits. Une espèce de violence comme ça qui est très caractéristique d'une époque où il y a à la fois quelque chose de presque catharsistique dans ce travail. Il y a un épisode qui s'appelle Zilzolop. Zilzolop, c'est évidemment Buzzelli, mais sauf que ses membres, ses jambes, ses bras foutent le cœur en permanence et donc vont tripoter la petite culotte d'une infirmière ou voler le portefeuille d'une vieille ou que sais-je encore. Et en même temps, le personnage en est très mal là, dans cette histoire. Donc il y a un peu une espèce de conflit entre, j'ai envie de dire, le moi social de l'auteur et puis certaines pulsions qu'il peine à réfréner. D'autre part aussi, il y a là la description d'une humanité, d'une société en pleine déliquescence, complètement gangrénée par l'arrivisme, l'argent et ce genre de choses. Voilà, ça c'est une des grandes révélations de Charlie. Il y en aura plein d'autres, hein, puisque c'est là notamment pour la première fois, enfin français en tout cas, qu'on va trouver les premières créations de Munoz et Sampaio, qui était déjà paru dans Linus, mais en français, c'est là qu'on voit apparaître Alaxineur. Donc Munoz et Sampaio, qui sont deux Argentins, qui ont quitté l'Argentine, et c'est clair que la question de l'exil, du déracinement, de l'identité, quelque chose qui traverse toute leur création. Et puis ce Alaxineur, ben voilà, c'est un polar noir, mais où l'intrigue passe rapidement au second, au troisième, voire au quatrième plan, et puis des recherches graphiques tout à fait étonnantes, une hyperstylisation, un jeu d'opposition des noirs et des blancs, qui provient là quelque part de Milton Caniff, qui a été marqué par Hugo Pratt, et puis qui confine parfois à l'abstraction chez Munoz et Sampaio. Un autre Argentin qu'on va retrouver dans Charlie Hebdo, c'est Breccia, donc grande figure aussi, qui est véritablement découverte très tard en francophonie, et encore aujourd'hui finalement, il n'y a qu'une toute petite partie de son œuvre qui est disponible, hein, dans cette espèce d'expressionnisme complètement halluciné. L'histoire qui paraît dans Charlie, c'est L'Eterno, donc qui est un récit de science-fiction, qui est d'ailleurs écrit par un grand scénariste argentin qui est Thor Osterheld, récit où les personnages disparaissent les uns après les autres suite à la chute d'une neige empoisonnée, mais là derrière on sent bien que c'est toutes les convulsions de l'Argentine contemporaine qui sont exprimées là-bas. Breccia et Osterheld sont déjà en train de préfigurer ce que deviendra les pires heures de la dictature argentine, où là effectivement il y a des tas de gens qui vont disparaître, qu'on ne reverra plus, alors que c'était votre voisin, ce genre d'horreur. Donc on est dans une espèce de métaphore de l'oppression qui est en train de toucher ce pays. On va y retrouver Willem, donc, qui est dessinateur hollandais, exilé à Paris, qui lui fait franchement dans le style crade, hein, un peu dans la lignée de quelqu'un comme Reiser, mais en même temps qui est une création qui est nourrie de références les plus diverses, avec un dessin, j'ai presque envie de dire, qui a été chié, mais en pleine concordance avec le contenu très eschatologique d'ailleurs de ses propres créations. Quelqu'un qui va apparaître là-bas, un autre gros choc, c'est Barbier, avec l'Icaon, puis le Dieu du 12. Barbier, qui était un des tout premiers à faire de la couleur directe, ce récit complètement troué, où on joue comme ça des vides entre les cases. C'est la comparaison qui revient souvent, mais de peintres comme Francis Bacon ou David Hockney. Voilà, ils se revendiquent de Courbet ou du Caravage, avec souvent des récits où des éphèbes copulent dans des chambres malodorantes où la climatisation visiblement ne fonctionne plus. Cette ambiance un peu à la William Burroughs, donc c'est tout à fait étonnant, révolutionnaire pour l'époque, dans un genre très différent, avoir arrivé quelqu'un comme Charlie Schlingo, qui lui est complètement dans cette approche punk, cette espèce de bêtise, cette volonté d'être à tout prix le plus débile possible. Il y a d'autres auteurs, il y a des gens un peu oubliés, hein. Je pense à cette dessinatrice qui s'appelait Cathy Millet, qui travaillait à partir de gravures. Je pense que la dernière publication doit dater du début des années 80, hein, qui a complètement disparu de la circulation, ou les frères Varenne notamment, hein, qui à un moment donné se sont perdus dans une espèce d'érotisme branchouille qui me paraît un peu vain, mais avec ardeur, en tout cas les premiers épisodes étaient quelque chose de tout à fait étonnant. On va y publier Töpfer par exemple, on va y publier Wilhelm Busch, donc ces grands ancêtres du 19e siècle, qui à un moment donné ont publié une bande dessinée chinoise notamment, malheureusement pas créditée. Mafalda de Kino va aussi être publiée dans Charlie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la grande époque de Charlie va véritablement commencer, je pense, hein, en 70, un an après la création, lorsque Georges Wolinski prend le rôle de rédacteur en chef. Apparemment, on lui met un peu le bébé dans les bras et débrouille-toi. Et Wolinski ne va pas écouter autre chose que ses propres goûts. Il dit « je fais Charlie avec ce qui est le meilleur au monde ». Et donc il fait Charlie avec ce qu'il estime être le meilleur au monde. Ses choix se font en pleine subjectivité. Et donc ça donne quelque chose d'assez génial. Finalement, c'est vrai pour toutes les grandes expériences éditoriales et ça dépasse largement le cadre de la bande dessinée. Souvent, on se rend compte que les grandes publications, c'est à un moment donné une personne ou un groupe de personnes qui finalement publient ce qu'ils ont envie de publier. Hein, sont dans le subjectif absolu, mais c'est souvent ça qui donne une cohérence. Alors que pourtant, le sommaire de Charlie, Dieu sait si ça partait vraiment dans tous les sens. Mais j'ai parlé de Spirou, de l'époque de Delporte, finalement, c'est un petit peu ce qui se passait aussi. Hein. Delporte publiait, effectivement, ses copains, publiait ce qu'il avait envie. C'est un peu un cycle qu'on peut observer dans beaucoup de revues, c'est qu'il y a toujours une période qui, généralement, correspond plus ou moins au début, où le terrain est vierge, et donc où le ou les responsables éditoriales publient exactement ce qu'ils ont envie de publier. Et puis, il y a un moment donné où le directeur éditorial s'en va, laisse la place à un autre, et là, il faut composer entre les envies des nouveaux responsables et puis un passé qu'il faut plus ou moins assumer. Et on le voit bien dans des revues qui sont souvent anciennes. Aujourd'hui, que ce soit les Codes des Savanes ou Spirou, on se rend bien compte que ces revues sont nées d'un compromis et qu'on a là un rédacteur en chef qui est obligé de composer avec différents éléments. Donc on n'est pas dans ce moment de magie du début où effectivement on a l'impression que tout est possible et où le rédacteur en chef amène sa subjectivité et ça donne, j'ai presque envie de dire, ça donne quelque chose d'objectif. On se rend compte que là derrière, il y a des enjeux même implicites qui finissent par se dessiner à un moment donné. Cette revue est importante. Pourtant, je pense à plusieurs égards parce qu'elle va vraiment placer la bande dessinée dans une perspective historique. En tout cas, en francophonie, je pense que c'est la première fois qu'on a une revue qui, à la fois, regarde dans le passé, mais prend pas n'importe quoi dans le passé. C'est les envies de Wolinski, mais il prend ce qui lui paraît intéressant. Il publie dans la jeune création de l'époque ce qui lui paraît aussi le plus intéressant. Donc c'est une bande dessinée d'auteur. Ce qu'il faut bien voir aussi quand même par rapport à Linus, c'est que, contrairement aux apparences, il y a une différence entre les deux revues. Même si la maquette est effectivement la même, même si le projet éditorial Ce mélange de choses très anciennes et d'avant-garde ultra contemporaine, on le retrouve des deux côtés, mais il y a un esprit qui est quand même un peu différent, puisque les éditions du Square, c'est l'éditeur d'Harakiri, de Charlie Hebdo, donc il y a même dans les éditoriaux de Wolinski une espèce de presque d'anti-intellectualisme primaire qui est parfois étonnant, hein, et qui contraste d'ailleurs très fort avec ce qu'on trouvait dans Linus, où là, comme j'avais expliqué la dernière fois, on avait des gens comme Umberto Eco ou Oreste de Bueno qui était le traducteur de Proust. Autre chose aussi qui est frappant, c'est quand on voit les maquettes, on voit aujourd'hui les livres d'association, ben ces maquettes de Charlie étaient très sobres, hein, souvent un fond uniforme avec un personnage détouré. Quand on voit la collection Ciboulette ou Éperluette à l'association, par exemple, je pense qu'il y a évidemment là une filiation qui me paraît tout à fait évidente et j'ai envie de dire qui me paraît tout à fait revendiquée. Alors, à partir des années 81, en fait, Wolinski va céder son poste de rédacteur en chef, il en a un peu marre. Donc il cède le poste à Willem. Willem va rester là-bas assez peu de temps. Il n'aura malheureusement pas le temps de vraiment imprégner sa marque sur cette revue, puisque pour des raisons, semble-t-il, essentiellement financières, ça va se casser la gueule. Enfin, c'est toutes les éditions du Square qui s'arrêtent là, à l'aube des années 80. Et c'est, de nouveau, la date est tout à fait révélatrice. On entre dans une nouvelle ère, puisqu'il y a eu d'autres éditeurs, hein, qui étaient, on ne les appelait pas indépendants, mais en gros, le Square, c'était quand même une petite structure associative fondée par des auteurs. Donc ça disparaît, enfin, ça disparaît, c'est repris par le catalogue d'Albin Michel. Le titre Charlie sera repris par Dargo, qui va tenter de le relancer avec différentes formules, assez déplorables d'ailleurs. Hein. Quand Charlie reparaît au début des années 80, c'est Mandrika qui est rédacteur en chef et qu'on a connu beaucoup mieux inspiré que ça. On va virer dans le style femme à poil, pin-up à l'aérographe, ce genre de choses typiques des années 80, un petit peu comme si Charlie était en train de lorgner du côté de Circus, qui est publié par Glénat à la même époque. Enfin, en fait, dans le style beauf le plus total, évidemment, on ne pouvait pas imaginer pire retournement de situation et pire pied de nez à ce qui était cette géniale formule d'origine. Voilà.